présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Et à 15h, il est entré dans le siège du groupe Je ne tout. Une hôtesse en tailleur rouge va vers lui et lui demande :
Vous désirez, monsieur ? J'ai rendez-vous au 5e étage. Ah, bureau 653. Je suis monsieur Dutour, Laurent. Je vais voir monsieur.
Elle s'éloigne pour aller vers un ordinateur et taper. Elle revient vers lui.
Oui, monsieur, l'on vous entend. Veuillez me suivre.
Elle le mène vers l'ascenseur A.
Il entre dans l'ascenseur. Et sort de l'ascenseur.
Il se trouve dans un grand couloir avec plein de portes et des numéros dessus. Il cherche la porte 653.
Trouve
la porte 653. Entrez. Il entre. C'est une salle d'attente. Un disque lui dit : asseyez-vous, on va venir vous prendre. Merci. Il s'assoit. Et attend. La salle d'attente est claire, meublée de meubles de verre, très moderne et très propre. Une porte s'ouvre.
Une femme en tailleur rouge, grande, brune, va vers lui.
Vous êtes monsieur Dutour-Laurent et vous avez téléphoné pour accepter de nous aider dans nos recherches.
Il lui dirait : oui, mademoiselle, pour être cobaye.
Elle lui dit : on ne dit jamais cobaye. Ici, ce mot est tabou. Bien, monsieur, veuillez me suivre.
Il se lève et la suit. Elle frappe à une porte. Entrez, monsieur. Il entre. C'est un bureau avec un homme grand, fort, châtain à lunettes métal dans les 40 ans, costume gris. Le bureau est vaste, moderne. L'homme se soulève de son siège et lui dit : asseyez-vous, monsieur. Il va s'asseoir.
L'homme lui dit : je suis le chef des relations humaines des coopérants extérieurs à nos recherches. Je m'appelle monsieur Genevois. Je vais vous poser quelques questions sur vous, puisque vous avez fait la demande de coopérer. Je tiens à vous dire, c'est que nous faisons une sélection très poussée à cause de la très grande demande. Due, bien entendu, au chômage, des gens sont capables de vendre tous leurs organes pour une bouchée de pain. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons des gens qui viennent à nous parce qu'ils croient à la biotechnique, pour l'amour de la science et non pour une simple histoire d'argent. Bien sûr, nous allons faire beaucoup d'argent grâce à ces recherches, mais vous allez y gagner surtout en connaissance, fierté d'avoir aidé le groupe Jeune Tout à aller de l'avant. Vous vous direz avec fierté : sans moi, Jeune Tout n'aurait pas donné la vue à des milliers de gens. Sans mon don des yeux, il n'aurait pas pu faire des expériences.
Le clerc lui dit :
alors, vous demandez des organes ? Non, nous n'en demandons pas. C'est vous qui allez nous en proposer. Ce n'est pas la même chose.
Le clerc lui dit :
j'ai appris, c'est que qu'un cerveau pouvait aller dans un autre corps. Est-ce vrai ?
Tout est possible, grâce à l'ADN et à nos dons. Un cerveau est très important. On le met dans un autre corps, où il sert de mémoire intelligente pour un ordinateur. Vous devenez le cerveau de l'ordinateur. Quelle vie extraordinaire !
Le clerc lui dit : je préférerais, c'est un corps humain.
Comme vous voudrez, mon cher, comme vous voudrez. C'est vous qui décidez. Mais l'avenir, c'est l'ordinateur.
Bien, bien. Nous n'en sommes pas encore là. Nous allons remplir une fiche ensemble.
Il prend une fiche.
Nom, prénom.
Dutour Laurent. Date de naissance, 1955-02.
Sexe, comment ?
Sexe.
Masculin.
Vraiment ou à moitié ?
Vraiment.
Bien.
Profession.
Sans.
Mais vous avez tout de même eu une profession.
Représentant en vaisselle.
Bien. Marié, célibataire, famille.
Plus.
Concubinage.
Non plus.
Bien. Pas de famille, pas de travail, amis, relations.
Rien.
Très bien, très bien. Vous êtes vierge, pour ainsi dire.
Pas de maladie.
Non.
Et ce trou au crâne. Un accident, je suis tombé.
Très bien. Vous acceptez, c'est que vous nous donnez vos organes. C'est vous qui en faites le don.
Oui.
Bien. Vous allez aller voir le médecin pour une visite médicale complète. Nous pouvons accepter des organes malsains.
Le clerc lui dit, je suis surtout venu, c'est pour le cerveau, monsieur.
Oui, bien sûr, mais tout va ensemble. L'homme se lève. Si vous voulez bien me suivre,
le clerc se lève.
L'homme met le questionnaire dans une pochette rouge.
Et ils sortent du bureau. Suivent un couloir. Prennent l'ascenseur jusqu'au 7e étage. Là, ils sortent de l'ascenseur. Suivent un couloir. L'homme frappe à une porte. Entrez. Il entre. C'est une salle d'attente. Comme l'autre, avec une secrétaire. L'homme va vers la secrétaire. Lui donne le dossier.
Une visite pour une recrue. Recyclage. Elle lui dit. J'espère qu'il sera mieux que l'autre. Parce que l'autre, de l'intérieur, il était complètement pourri. On n'a rien pu en faire. On l'a refilé à la morgue.
Et qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Elle ouvre ses épaules. Même pas au frigo. Directement. Dans le four. Directement dans le four. Tu n'as jamais vu. Même pas l'ADN. Il était tellement... Il était tellement nul. Il faut le faire. Le vôtre là, il a des antécédents.
Non, juste un tour au cerveau.
Oh, on va bien regarder ça.
Dom lui dit, bon, eh bien, je vous laisse.
Et il s'en va, sans dire au revoir, ni regarder le clerc.
Il ne pèse pas lourd. Il aimerait partir le plus loin possible.
La fille lui dit, eh bien, asseyez-vous, on va venir vous chercher.
Il s'assoit. Une porte s'est ouverte.
C'est une femme en blouse blanche, brune, grande, mince, belle. Elle va vers la secrétaire.
Il y a quelqu'un? Oui, c'est lui.
L'infirmière lui dit.
J'espère qu'il ne sera pas aussi crados que l'autre. Si je vois qu'il est pourri, il y court au froid, au four. Je ne veux pas me faire engueuler parce que je l'ai fait passer à l'étage supérieur. En ce moment, ils nous font chier. Ils ne veulent que de la qualité, de la viande de premier prix. Il paraît que ça pourrirait si on les faisait congeler.
Elle regarde sa montre et lui dit.
Bon, il faut que j'y aille, parce que je veux finir tôt ce matin.
Elle va vers le clerc. Elle a la pochette à la main. Elle lui demande.
C'est vous le monsieur?
Oui, madame.
Suivez-moi.
Il la suit, inquiet. Sort de la salle d'attente. Se trouve dans le bureau de l'infirmière qui lui dit
« Vous allez dans les toilettes, là, et faire pipi pour les urines. Vous pouvez ?»«
Oui, je crois.
Allez-y. »
Il va dans les WC.
Sur une tablette, bien en évidence, se trouve un verre pour mettre les urines. Il prend le verre.
Se débraguette pour sortir le sexe et se met devant les WC.
Ça fait difficilement
mais ça vient. Il fait attention parce qu'il a envie de faire caca en même temps. Il est en sueur. Mais... il se sent soulagé tout de même.
Ça y est, il est fini, il a fini. Il remet le verre en place.
Se range. Et sort en sueur.
Elle le regarde bien, lui dit. Je vois, ça a été difficile. Venez vous asseoir, je vais vous faire les yeux. Il s'est assis à une petite table, elle est en face de lui. Sur la table, il y a un appareil avec des ouvertures pour les yeux. Regardez bien. Et commence le test des yeux.
Après, elle m'a dit, venez. Vous entrez dans cette cabine et vous vous déshabillez. Il entre dans la cabine et se déshabille.
Se déshabiller tout, comment, il ne sait pas. Elle ne lui a pas dit. Elle aurait pu le lui dire. Il y a une grande glace en face de lui et, une fois déshabillé, il se voit et se trouve vraiment très moche. Poitrine, ventre, bras et jambes maigres. Il se demande comment sa femme a pu accepter qu'il fasse amour avec elle.
Habillé, ça peut aller, mais déshabillé. Il suffirait que je me montre pour qu'elle puisse pousser un cri de frayeur et tomber raide morte.
Enfin, il est en slip. Malheureusement, il voit que son slip n'est pas très net. Il est mouillé sur le devant à cause de tout à l'heure. Il est rouge de honte. Et puis, il aurait dû prendre un caleçon au lieu d'un slip.
La porte s'est ouverte. C'est un petit homme avec une blouse blanche.
Venez !
Il sort de la cabine.
Et se trouve dans le cabinet d'un médecin.
Mettez-vous sur la balance.
Que ça ? Vous n'êtes pas gros. Allez vous asseoir sur la table.
Il va s'asseoir sur la table en faisant attention de ne pas déchirer le papier hygiénique qu'il y a dessous.
Ouf!
Toussez. Très bien, très bien. Réflexe. Très bien, très bien. Venez à mon bureau.
Il marque sur une feuille de dossier
et lui dit, je vais vous mener pour qu'on puisse vous faire une radio.
Et il se trouve dans une grande pièce avec une table et au-dessus il y a une radio, etc., etc. Une fois que la radio a été faite, allongée sur la table qui pivote à gauche, à droite, en haut, en bas, sur les côtés, etc., etc., et même debout,
vous allez aller vous rhabiller et attendre dans la salle d'attente. On viendra vous chercher une fois que la radio sera prête.
Il retrouve le vestiaire et se rhabille.
La radio développée, elle est menée au médecin.
Le médecin est un gros homme chauve. Il regarde la radio. Bien, bien. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Il voit, dans le crâne, un drôle de truc. Un petit carré, c'est le bip-bip. Et une plaque, c'est l'émetteur.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qu'on a bien pu mettre dans ce cerveau?
Il fait revenir le clair.
Qu'est-ce qu'on vous a fait dans le cerveau?
J'ai eu un petit accident et j'ai été opéré pour m'enlever le sang qu'il y avait dans le cerveau.
Ça n'explique pas ce qu'on vous a mis dans le cerveau.
J'ai quelque chose dans le cerveau? Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est une chose étrange.
Vous ne pouvez rien me dire?
Non, monsieur. Le docteur soupire et dit: bien, revenez dans une semaine.
Vous aurez la décision.
Le clerc se lève, le médecin le met jusqu'à sa secrétaire. Qui le mène jusqu'à l'ascenseur.
Il est crevé. Pourtant, il n'a rien fait. Il se jure de ne plus jamais revenir.
Ce sont des escrocs. Et je ne veux pas finir dans un four.
Dehors, l'air lui fait du bien.
Toujours curieux de savoir ce qu'il a dans le cerveau de cet homme.
Peut-être est-ce un régulateur pour maintenir le cerveau en marche?
Non, c'est bizarre.
Le soir, dans l'ascenseur, il rencontre Danfort, qui lui demande
« Alors, ça va, les postulants sont bons ?»
Le médecin lui dit « Oui et non, beaucoup de rejets. Là, cet après-midi, j'ai eu un cas bizarre. La personne a dans son cerveau deux petites choses dont je ne comprends pas ce que c'est. »
Danfort curieux lui dit « Vous montrerez ces radios. »
« Bien. »
Le lendemain matin, il regarde les radios dans le bureau de Danfort.
Danfort se dit « Ça me dit quelque chose. Laissez-moi ces radios. Et la personne, qui est-ce ? »
Un dénommé Laurent Dutour, je crois.
Il va revenir chez vous ?
Oui.
Vous avez son adresse?
Non, il n'en a pas.
Dommage. Je vous remercie.
J'aimerais parler à Riquin, s'il vous plaît. Je suis dans Fort. Merci. Allô, Riquin, c'est moi dans Fort. Dis donc, j'aimerais que tu puisses venir le plus rapidement possible à mon bureau. J'ai quelque chose à te montrer. Bien, d'accord, je t'attends.
Entre Riquin.
Venez vous asseoir.
Voilà. J'ai cette radio à vous montrer. Regardez-la bien.
Riquin lui dit : C'est bien Leclerc. Je reconnais mon travail. Quel heureux hasard de l'avoir retrouvé.
Danfort lui dit, oui et non, car s'il est venu chez nous, c'est peut-être pas un hasard. Il veut peut-être nous faire chanter, nous demander de l'argent, ou dévoiler à la police ce que l'on a fait, et nous accuser de l'avoir transformé en tueur de femmes.
Riquin lui dit, mais c'est impossible, il était déjà tueur.
Danfort lui répond, oui, mais les autres ne le savent pas. Et cela n'arrangera rien. Nous serions obligés de leur dire pourquoi nous avons fait ça. Et ce qui est encore pire, laisser en liberté un tueur et suivre ses faits et gestes comme un cobaye sans aider à sauver la pauvre victime. On nous traitera d'assassins, de criminels. Leclerc de victime. Il faut le retrouver.
Riquin lui dit,
il paraît que l'autre est à Paris aussi.
Je crois que l'on va reprendre contact avec eux. Je le souhaite, parce que cette histoire est très mauvaise pour nous.
Riquin demande, est-ce que l'élu le sait?
Non, il n'est pas encore assez mûr pour le savoir. Mais cette histoire est très grave. Déjà, l'article dans le journal était une très grosse erreur. Qui a parlé aux journalistes? Sûrement une personne du siège.
Riquin lui dit.
Une hôtesse, une infirmière.
L'enfant lui dit. Et pourquoi pas un directeur? Mais celui qui a fait cette bêtise, je veux qu'il aille de suite au four.
Riquin demande. L'article est lu, l'a lu?
Non, pour le moment, je lui ai caché.
Riquin fait surveiller 24 heures sur 24 le bip-bip des deux hommes. Leclerc erre dans les rues, ne sachant que faire. Avec les 1 000 francs qu'il a, il peut se payer une chambre et manger au restaurant. Mais pour 1 000 francs, c'est peu. soir, qui se promène dans la rue, il croise une belle jeune femme, grande, mince, habillée d'un tailleur noir. Il ne peut s'empêcher de la suivre. L'envie du cri lui vient. Il est de plus en plus excité, à chaud, les oreilles qui bourdonnent. Il suit la femme, a l'impression qu'elle ne s'en rend pas compte. Elle le guide dans des rues de plus en plus sombres et vides. Il presse le pas car il a peur de la perdre. Derrière lui, il entend des pas qui le suivent. Il ne tourne pas la tête. La femme marche de plus en plus vite. Lui aussi, et l'autre qui est derrière lui. La femme va dans une impasse, petite, mal éclairée et déserte. Il la suit. Elle se retourne, elle a le dos au mur, une cigarette aux lèvres, l'allume avec un briquet et lui dit « Qu'est-ce que tu veux, mon lapin ?» Il va vers elle. Il se plaque contre elle et lui met la main au cou. «
Qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-moi !»
C'est ça ! Crie ! Crie ! Crie ! Tout à coup, l'homme s'est senti retiré en arrière. Il entend une personne qui lui dit « Elle est à moi. C'est moi qui vais le faire. » C'est le mercier qui instinctivement a suivi le clerc. Il le fait tomber à terre. La femme n'a pas eu le temps de s'en aller, que le mercier prend la place de Leclerc. « Vous êtes à moi. » Leclerc le prend par derrière et lui dit « Non, c'est à moi. C'est moi qui l'ai vu la première. »« Elle est à moi, je te dis. » Et le mercier pousse d'un coup de coude Leclerc, qui prend le coup de la femme.
« Allez, crie, crie. »
Elle crie, elle crie. Le mercier va vers Leclerc. « Non, c'est moi qui dois la tuer. » Le mercier lui donne un coup de poing et tombe à la renverse. La femme leur dit
« Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est de cette façon de se battre pour me tuer ?»
Le mercier lui dit « Boucle-la, crie !» Et il lui met la main au cou. Elle crie. Le mercier sort son couteau. Il voit Leclerc derrière lui, il lui en donne un coup dans le ventre. Il tombe, sans vie. La femme hurle. Le mercier lui dit « T'en fais pas, toi aussi t'auras ta part. » Tout en maintenant la femme qui crie, il sort le couteau du ventre de Leclerc, lui tire les cheveux de la femme qui crie toujours et lui donne un coup. Le cri s'est arrêté et il quitte la rue.
Thank you. au laboratoire Riquin, où on surveille les bip-bip avec des cartes lumineuses sur le mur et des tas d'appareils, ils voient comme bip-bip s'est arrêté. Il a dû se passer quelque chose. Allons vite le dire à Riquin.
Entrez.
Le bip-bip ne répond plus. Ça s'est arrêté. Il n'y a plus rien. On a l'impression que le cerveau ne répond plus. Riquin demande. C'est qui ? C'est Leclerc. Mon Dieu. Allons vite voir. Après avoir regardé, Riquin dit « Le Mercier est perdu. Il deviendra définitivement Leclerc. Avant de mourir, le cerveau de Leclerc s'est déversé complètement dans le sien. Il n'y aura plus de retour en arrière puisqu'il est mort. Le Mercier est un criminel à vie. Il faut l'abattre. C'est la seule chose à faire. Trouvez-le vite. »
« Et comment faut-il faire ?» Riquin lui dit.
« Prenez des voitures avec des récepteurs et sillonnez la ville. Et si vous le voyez, tuez-le de suite. Il est irrécupérable. Il ne faut pas que la police le prenne. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé et qu'il est entré chez nous. Allez !»
Voiture de petit format, mais avec un moteur de course, avec un chauffeur et deux hommes. Un qui surveille le récepteur et l'autre a une arme. 50 voitures sillonnent la ville dans tous les sens. Surveille le moindre signal. Personne ne sait que ce sont des voitures jaunes tout. Toutes les voitures sont reliées à un central qui peut leur donner les indications. Comme cela, si une voiture le retrouve, toutes les autres peuvent aller à l'endroit indiqué. Les voitures sillonnent les rues de fond en comble. Et s'ils voient quelqu'un dans la rue qui est Mercier, ils le sauront grâce au bip-bip.
Croise dans la rue un homme. Le bip-bip fonctionne. Il regarde sur l'écran ordinateur si c'est qui est comparé à l'homme. Oui, c'est bien lui. Il appuie sur un bouton pour donner l'alarme et les indications en même temps pour que faire venir 50 voitures vers lui. La fois qu'il a fait tout ça, il fait foncer la voiture sur le Mercier. Le Mercier voit venir à lui une voiture qui fonce à fond train. Il se met à courir. La voiture va vers lui pour le dépasser. Il panique. Il voit un trou d'égout qu'il fait descendre dedans.
Il se met à courir dans les égouts.
On a prévenu les voitures et les autres sont entrés dans la bouche des goûts. Des hommes sont sortis de voiture avec des fusils mitraillettes et sont descendus dans les égouts. Le Mercier court, court, court. Il est essoufflé. Les échos m'amènent des pas. Des pas d'hommes qui le suivent. Mais il ne sait pas, car ça fait écho. Il court, il court, il court dans l'eau. Il court, il court. Je ne sais pas pourquoi, il est poussé à courir. Il court, il court. Les pas résonnent de toutes parts.
Il aimerait qu'il s'arrêtait.
Mais où ? Il y a un renforcement. Il court tellement vite qu'il ne peut pas le faire. Les égouts de Paris sont comme les rues, avec des trottoirs, marches, rues avec des noms, avec de la lumière. Des trottoirs, marches, rues avec des noms, avec de la lumière. Ils tournent de rue en rue, sans rien voir. Le bruit de ses pas résonne de partout. De lui, des hommes en noir armés. Il s'arrête net, se tourne et en voit aussi. Il est essoufflé. C'est lui qui, cette fois, pousse un cri.
Son cri s'est arrêté à cause des rafales de mitraillettes.
On a pris le corps, était aspergé d'essence et brûlé.
Thank you. Riquin et Danfort ont assisté à l'opération au laboratoire.
Riquin dit « Ouf, c'est fini, il ne reste plus rien. Ouf, mais Leclerc a deux filles qui ont l'ADN de leur père. »
Peut-être ont-elles hérité des mêmes impulsions que leur père,
à moins qu'ils soient devenus fous après leur naissance et que sa folie ne soit pas héréditaire. Mais...
De Leclerc a appris la mort de son mari à Paris.
Elle ne comprend pas pourquoi il est allé là-bas. On lui a dit qu'il a été tué parce qu'on voulait lui voler son portefeuille. On ne lui a pas parlé de la femme. Leclerc a eu des funérailles religieuses et personne ne sait qu'il était tueur de femmes.
Danfort dit à Riquin,
je vais être obligé d'en parler à l'élu.
Il le lui dit. Gallien lui dit,
il ne faut plus faire d'expérience de cette sorte.
Danfort lui dit, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Nous avons en partie réussi. Il était vraiment coupable. Mais la prochaine fois, au lieu de mettre le receveur dans le cerveau d'un homme, nous le brancherons directement sur un ordinateur. Cela évitera que le receveur devienne comme le tueur.
Félicien Pontois, son cerveau est bien connecté à l'ordinateur. Il joue à la bourse et ça marche. Bien entendu, pour ne pas ébruiter la chose, on déconnecte au nom de Genetou sans que l'ordinateur Pontois puisse savoir. On veut laisser secrète ce miracle de la science encore quelque temps pour voir si ça marche vraiment. Et quand on lui pose des questions, il répond à toutes. Il propose, c'est d'acheter des terrains à bas prix en Afrique et de les cultiver grâce à la biotechnique, sans terre, au-dessus du sol. On peut faire pousser des plantes, fruits et légumes, même dans le désert. Pour ce qui est de l'eau, l'on pompe de l'eau de mer que l'on met dans des bassins qui ont des bactéries programmées pour supprimer le sel de la mer. La bactérie ne mange que du sel. Après l'avoir digéré, comme les abeilles, elle le jette en tas et ce sel est revendu comme sel de cuisine pure, sans le moindre défaut. Et, pour ce qui est de l'eau, sans sel, on la fait passer dans des tuyaux jusqu'aux plantations. L'eau, le soleil font éclore les légumes. Mais dans l'eau, l'on met des calories pour les plantes. Ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de terre. Certains légumes sont poussés dans des sachets en plastique d'emballage. Et une fois mûris, il ne reste plus qu'à couper le fil qui tient le sac et le légume est prêt à la vente. Déjà dans son paquet d'emballage usiné.
Ou, pour les grosses plantes, l'on met à côté de la plante une plante qui a un gène qui servira à entourer la plante de plastique d'emballage. Toutes ces idées sont des idées pontoises. Et le premier légume et fruit pour le commerce est livré à l'usine Pontoise. Technique, diététique, plus riche.
Un vent chaud est sur la ville, le ciel est bleu. Sans nuages, le temps fatigue les gens. Une envie de rien, chacun reste terré dans son coin et ne bouge pas. Les rues sont presque vides. Il n'y a pas de circulation, les chiens, les chats dorment à l'ombre des poubelles. De femmes au milieu du silence et des coups de feu venus de je ne sais où. Le soleil, mais le mal rôde, le diable, si vous voulez.
dans les entreprises jeunes tout. L'on continue à travailler malgré la chaleur, on travaille pour l'avenir. Sans que le monde ne se rende compte, l'avenir se fait dans ces grands bâtiments éparpillés dans toute la France. Le plus grand bateau du monde se construit au Havre, bateau révolutionnaire, de 500 km à l'heure, chaudière atomique, 20 000 personnes. Les avions supersoniques jeûnent tout et fusées. Les micro-ordinateurs avec l'ADN le plus puissant du monde. Les chimères, la biotech, les finances et beaucoup d'autres choses. Tout ceci est en danger et risque de s'effondrer. Car ce sont des femmes de ménage, des secrétaires, des électriciens, des médecins, des chercheurs. Leur but, c'est de faire couler le groupe par idéologie. Mais en réalité, cette cellule idéologique auquel ils appartiennent à un gros industriel américain qui veut pas que le groupe Jeune Tout réussisse. Ils veulent sa place. Le groupe américain a créé une cellule anarchiste chez des jeunes étudiants bourgeois qui sont contre tout pour emmerder leurs parents. Alors, comme leurs parents sont bourgeois, ils deviennent anti-bourgeois et anarchistes. Ils sont contre le modernisme, la société, le capitalisme, la science. Ils sont pour l'écologie et seuls. Ils veulent foutre en l'air la société. Le groupe américain a donné une forte somme à un étudiant lyonnais de la haute bourgeoisie et lui a dit de créer une cellule anar pour se servir de militants pour les opérations commando d'espionnage que les jeunes feront au nom de leur idée et qui sont en réalité qui en réalité serviront au groupe d'informatique américain. Mais les jeunes ne le savent pas. Pour attirer ces jeunes, il faut organiser des concerts de groupes inconnus qui chantent des chansons violentes contre la police, etc. Distribuer dans ces concerts de la drogue douce et de la bière. Les faire manifester pour un oui en non. Les faire squatter. Les jeunes adorent squatter entre eux. Ils ont l'impression de faire quelque chose de très militant et d'être positif vis-à-vis de la société. Et malgré qu'ils soient contre la société et qu'ils veulent être dehors la société. Bien entendu, j'ai mis pour dire au hasard le nom d'un groupe. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Hein. Et c'est direction la prison, prendre son temps.